Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Français. Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, bonjour et bienvenue dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité scientifique des laboratoires de Muse, Montpellier, Université d'Excellence. En ce début d'année 2022, je tiens tout d'abord à vous présenter mes meilleurs vœux et à vous assurer que, moi présidente, tout sera mis en marche pour les réaliser. Avec moi, fini les fausses promesses, avec moi, tout devient possible. Vous voulez la santé? Je vous garantis en 2022 l'éradication immédiate et quoi qu'il en coûte, du Covid, du cancer et de l'eczéma. Vous voulez la sécurité? J'exigerai la fermeture des frontières après 1h du matin et l'obligation du passeport non vaccinal français. Vous voulez le bonheur et l'amour? Je ferai rouvrir au plus tôt les boîtes de nuit, les églises, les meetings, sans gel, sans masque. Vous voulez l'argent? Je vous promets la réduction de la fracture sociale grâce à une hausse des salaires de 50% minimum et une baisse du coût du travail d'au moins autant. La suppression de l'impôt sur la fortune et des chômeurs. Vous voulez l'écologie? Je déclarerai la guerre au réchauffement climatique en ordonnant l'immolation par le feu de tous les thermomètres. Vous voulez...
Populiste!
Quoi, comment ça, populiste? Je t'en ficherai, moi, des populistes. Tu sais ce que c'est, toi, au moins, le populisme?
Ah bah non.
Eh ben ça tombe bien, parce que nos invités, eux, ils le savent très bien. Ils sont chercheurs au laboratoire de sciences politiques du CEPEL et ils ont sorti en novembre dernier un ouvrage intitulé « Au nom du peuple », dans lequel ils reprennent l'ensemble des préjugés sur le populisme pour tenter de mieux expliquer ce concept un peu flou et de plus en plus utilisé comme une catégorie fourre-tout. Avec nous en studio, Alexandre Désé, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue.
Merci.
Et Emmanuel Rengoat.
Bonjour.
Et bienvenue également, avec moi comme chaque semaine pour mener cette interview, la populaire et non populiste, Aline Thériault.
Bonjour.
Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55...
Alors, on commence toujours cette émission par une question très simple et une question de définition. Autant dire qu'avec vous, ça a été un peu compliqué puisque vous commencez votre livre en nous expliquant que faire une définition du populisme, c'est un peu compliqué. Alors, on va commencer par ça. Pourquoi est-ce qu'il est compliqué de définir le populisme? Qui veut répondre? Alexandre Désé?
Parce que le populisme, en fait, est une notion qui a été utilisée pour définir tellement de choses. Il est difficile de trouver un point commun entre ces différentes choses. Alors, c'est un terme qu'on a pu utiliser pour qualifier des mouvements politiques, des régimes politiques, des partis politiques, des hommes politiques, des idéologies politiques, certaines attitudes politiques. C'est un terme qu'on a également utilisé pour désigner des mouvements d'extrême droite et d'extrême gauche, pour désigner Pierre Bourdieu, Margaret Thatcher, Indira Gandhi, le chanteur Renaud. Donc la grande question, c'est de savoir comment on peut définir des choses aussi diverses et hétérogènes. Donc effectivement, la première question qu'on s'est posée dans ce livre, c'est est-ce qu'une définition du populisme est possible? Et notre réponse est oui, à condition en fait de s'accorder sur le minimal commun, le noyau qu'on va retrouver entre ces différentes manifestations du populisme. Et donc nous, on a considéré que ce qui constitue un invariant du populisme, c'est en fait un style politique généralement qui fait effectivement appel au peuple contre l'élite, qui peut être mobilisé par différents types d'acteurs, différents types de mouvements, quelle que soit en fait leur orientation idéologique. C'est une définition qui existait déjà dans la littérature. Le problème, c'est qu'il y a une lutte très importante entre les chercheurs pour l'imposition d'une définition légitime du terme. Donc en fait, le seul point sur lequel s'accordent les chercheurs, c'est précisément la difficulté de définir et de s'entendre sur une définition.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57,
Alors, Catherine Alix Panabière, on a l'habitude de commencer cette émission par une question basique. Et celle-ci, elle ne va pas être facile, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un cancer? Et finalement, comment ça se forme, un cancer?
Oui, alors effectivement, je vais vous parler des cellules tumorales. En fait, on a des cellules qui, j'allais dire, composent un organe, hein, comme les cellules mammaires dans le sein, dans le tissu mammaire. Et en fait, à un moment donné, une cellule tumorale va devenir complètement anarchique. Elle ne va plus, j'allais dire, interagir de manière normale avec les cellules voisines, avec les cellules environnantes, qu'elles soient identiques ou non, ce qu'on appelle un peu les cellules stromales aussi, les cellules du système immunitaire. Et en fait, elles vont, de manière anarchique, se développer, se répliquer, se multiplier. Et donc, on va avoir une excroissance de tissus, de cellules, voilà, qui vont donc donner une tumeur, un cancer.
Très bien. Alors, il y a une autre notion dont on va avoir besoin pour comprendre le déroulé de l'émission, c'est les métastases. Qu'est-ce que c'est qu'une métastase?
Alors, une métastase, c'est vraiment une cellule qui est issue de cellules qui auront essaimé, de cellules tumorales qui auront essaimé de la tumeur initiale, donc elles auront disséminé, elles se seront, j'allais dire, elles auront été invasives et elles se seront, j'allais dire, elles auront voyagé dans le corps humain pour aller se loger dans des organes à distance, et c'est ce que l'on appelle métastase, donc une tumeur qui se réinitie à distance de la première.
Alors, Lucie, on a parlé en introduction, vous vous intéressez, vous en particulier, à ce qu'on appelle les CTC, les cellules tumorales circulantes. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus ce que sont ces cellules?
Oui, alors, dès la formation d'une tumeur, même si elle est toute petite, on peut avoir des cellules plus agressives que les autres, qui vont avoir la capacité en elles-mêmes de se décrocher activement de la tumeur, de pouvoir être invasives, de trouver des systèmes pour se frayer un chemin, d'atteindre un vaisseau sanguin, et de pouvoir justement, après, voyager dans le sang, pour atteindre justement de manière spécifique des organes à distance. Et donc ces cellules tumorales circulantes, ce sont des cellules que l'on retrouve particulièrement, par exemple, dans le sang.
Donc avec le docteur Klaus Pantel, je prononce bien son nom, c'est bien ça, avec le docteur Klaus Pantel de l'hôpital de Hambourg, vous êtes à l'origine donc d'un concept qui a révolutionné cette approche, comme on le disait en introduction, la biopsie liquide. Donc en quoi ça consiste et en quoi c'est différent d'une biopsie traditionnelle, on va dire?
Oui, alors la biopsie liquide, on a inventé ce nom en 2010 et c'est pour ça qu'il a été publié pour la première fois et il est utilisé de partout dans le monde. En fait, on a pensé à une biopsie liquide puisque c'est un simple prélèvement de sang non invasif que l'on peut faire de manière répétée, à l'inverse d'une biopsie tissulaire qui peut être invasive. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu l'idée de biopsie liquide. Et effectivement, la biopsie liquide, aujourd'hui, on parle de cellules tumorales circulantes. On parle aussi d'autres éléments figurés du sang, comme par exemple l'ADN tumoral circulant, les exosomes, les micro-ARN, on y reviendra de toute façon, et que l'on peut détecter dans le sang, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui est le plus fréquent, mais aussi aujourd'hui on parle des autres fluides biologiques, comme par exemple l'urine, l'expectoration, la moelle osseuse, le liquide céphalorachidien, etc. Et on a des études justement qui ne se limitent pas au compartiment sanguin. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que la biopsie liquide aussi, c'est vraiment quelque chose que l'on appelle en temps réel. C'est comme ça qu'on l'a défini aussi. Pourquoi? Parce que ce soit l'ADN tumoral circulant ou les CTC, les cellules tumorales circulantes, elles ont un temps de demi-vie qui est très très court. C'est-à-dire qu'on sait qu'elles ne vont résister dans le sang qu'un temps très court, moins de 2 heures, moins de 1 heure. Donc quand on voit un élément à un instant T, on se dit bah, c'est quelque chose qui est en train de se passer.
Et alors, vous expliquez dans un article qui a été publié en décembre dans le magazine Pour la Science que dans 7,5 millilitres de sang, on trouve moins de 10 CTC. Vous cherchez vraiment une aiguille dans une botte de foin, en fait. Comment est-ce que vous faites pour les trouver, ces cellules tumorales circulantes?
Exactement, ça fait 23 ans que je travaille sur cette thématique. Et effectivement, on a mis en point et on a monté un laboratoire assez unique en Europe où on a des systèmes particuliers pour aller justement isoler, détecter des cellules tumorales circulantes. Et vous dites moins de 10, oui, on peut en détecter une dans 7,5 ml de sang. Donc là, on a différentes stratégies au laboratoire. Soit on va aller les cibler directement en positif, j'allais dire, hein, comme si on allait pêcher quelque chose en positif. Ou alors on peut éliminer ce qu'on ne veut pas et on garde tout ce qui reste.
Qu'est-ce que vous appelez en positif?
Alors, on va utiliser par exemple un marqueur spécifique de surface et on va prendre des anticorps protéines, par exemple, de surface, et on va pouvoir cibler, comme si on allait pêcher directement en sélection positive, cette cellule tumorale circulante. Ce qu'il faut se dire, c'est que aujourd'hui, on n'a pas de marqueur de tumeur. On va aller chercher une cellule épithéliale, hein, puisqu'on parlait du cancer du sein. On va chercher une cellule épithéliale qui n'a d'habitude ne se retrouvent jamais dans le sang. Les sujets sains n'ont pas de cellules épithéliales qui circulent. Nos organes sont vraiment solides et en cohésion avec eux-mêmes. Quand on a des cellules qui se décrochent épithéliales et qui circulent dans le sang, ce sont des cellules malignes. Que ce soit chez des sujets qui ont des pathologies bénignes ou des sujets plus âgés, on n'a jamais de cellules d'organes qui circulent comme ça dans le sang. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller rechercher des protéines spécifiques de cellules épithéliales qui nous permettent d'aller, entre guillemets, pêcher ces cellules dans le sang. Et bien évidemment, ensuite, on applique des techniques de détection de ces cellules tumorales circulantes. Ou encore une fois, on va aller chercher d'autres marqueurs, mais toujours spécifiques de cellules épithéliales.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56.
Alors, Pierre-Olivier, Antoine, peut-être que pour commencer, on peut parler donc de l'animal en question, ce fameux paresseux géant dont on ne sait pas grand-chose, en tout cas nous. Donc, on voit tous qu'il ressemble à un paresseux, pardon. En quoi est-ce qu'il est différent du paresseux actuel, ce paresseux géant disparu il y a 12 000 ans?
Alors, les paresseux actuels, ils sont tout petits. Il y en a qui ont deux doigts, il y en a qui ont trois doigts, mais le point commun, c'est qu'ils sont arboricoles, ils vivent dans les arbres, et ils pèsent quelques kilos. Donc tout le monde a vraiment une représentation de ces paresseux-là, qui sont les derniers représentants d'un groupe qui était jadis florissant, et surtout composé de beaucoup plus grosses bêtes terrestres. Donc c'est assez atypique, c'est très contre-intuitif si on s'en tient à la nature actuelle, mais ce sont des animaux qui étaient apparentés, donc vraiment des paresseux, mais plutôt avec une allure d'ours.
Alors, il faisait combien la taille est très impressionnante. Donc
alors, on parle de paresseux géant parce que ces animaux-là, quand ils se mettaient debout, en mode trépied, un peu à la façon des kangourous, leur tête culminait à 4 mètres.
Eh oui. Oui, rien à voir avec la petite bestiole qu'on connaît actuellement, effectivement. Et donc, comme vous disiez, il n'était pas arboricole, il montait pas dans les arbres.
Celui-là, on pense qu'il n'était pas arboricole parce qu'il faisait plus facilement venir les arbres à lui que l'inverse.
Et est-ce qu'on sait s'il était aussi lent?
Alors, on pense qu'il était plus lent que sa corpulence ne pouvait le permettre. En gros, plus lent qu'un éléphant ou qu'un rhinocéros, qui sont des animaux à peu près de la même corpulence. Mais ça ne l'a pas empêché d'être un grand voyageur.
Oui, justement, je vais vous reposer des questions là-dessus. D'abord, on l'a dit tout à l'heure, cette espèce, elle s'est éteinte il y a 12 000 ans, mais est-ce qu'on sait quand est-ce qu'elle est apparue?
Alors, ces paresseux géants, ils ont une histoire très bien documentée dans les deux derniers millions d'années, en Amérique du Sud, et Eremotherium leuryardi, c'est un animal qui est connu exactement dans la même gamme de temps, c'est ce qu'on appelle globalement le quaternaire.
Donc, vous l'avez dit, c'était un grand voyageur, malgré sa lenteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait comme voyage particulier, ce paresseux géant?
Alors, ces paresseux géants, ils sont partis d'Amérique du Sud. Ils sont restés en Amérique du Sud, certains. Mais quelques-uns ont gagné l'Amérique du Nord via l'isthme de Panama, qui venait juste d'émerger.
C'était à quelle période, ça?
Il a commencé il y a à peu près 2 millions d'années. Et ces animaux-là ont gagné donc l'Amérique centrale, puis le sud de l'Amérique du Nord. Et on les connaît depuis la Californie jusqu'à la Floride, en passant par le Texas.
Alors, est-ce qu'on sait également dans quel type d'écosystème il évoluait, ce paresseux géant? Est-ce qu'il y a d'autres mammifères qui ont coexisté et qu'on connaît également?
Alors, cet animal-là, il était herbivore. Et donc, on pense qu'il mangeait beaucoup de végétaux par jour. Et qu'il vivait dans des écosystèmes soit forestier, soit plus probablement mixte, c'est-à-dire entre la savane et la forêt. Et effectivement, les autres animaux qu'on va trouver associés à cet animal-là ailleurs, en Amérique du Nord, en Amérique centrale ou ailleurs en Amérique du Sud, permettent de le confirmer. C'est des écosystèmes terrestres, avec de l'eau quelque part, pas loin, pour la boisson, et puis de la végétation en abondance.
Donc ça veut dire que la Guyane ou l'Amérique du Sud a été savane à une époque ?
Et précisément, c'est ce qu'on cherche à retrouver, à identifier pour la région précise où, d'où le spécimen que nous avons ramené provient. Parce qu'aujourd'hui, c'est la forêt pluviale, c'est une forêt très très dense, en plein cœur du parc amazonien de Guyane. Mais des indices, et notamment sur la base de pollen, de grains de pollen, nous laissent supposer que cette région a été une savane, une pure savane, agraminée, pendant ce qu'on appelle le dernier maximum glaciaire, il y a une vingtaine de milliers d'années.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56.
Alors, 55. Mathieu Sicard et Sylvie Urtrez, ce livre dont on va parler pendant les 20 prochaines minutes, donc je l'ai devant moi, c'est un manuel à destination des professeurs, donc il fait 144 pages et il propose donc 13 chapitres. Avant qu'on revienne sur ces 13 chapitres qui sont 13 exemples, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la genèse de ce projet ? Donc, c'est un projet assez inédit, on l'a dit. Comment elle naît l'idée et quand elle naît ?
Alors l'idée, bon, bien sûr, c'est déjà un travail de longue date avec les professeurs du secondaire. Hein. C'est pas nouveau, on le fait depuis très longtemps à la Faculté des Sciences. Mais c'est surtout cette idée de créer de nouveaux exemples sur ce thème hein, vraiment de l'évolution. Parce que finalement, les enseignants ont beaucoup de temps de préparation de leurs cours, prennent beaucoup de temps à préparer leurs cours, mais ont parfois du mal à trouver de nouveaux exemples quand ils ne sont pas issus de la recherche et donc tournent un peu en rond sur les mêmes exemples. Et ça peut être parfois la cible justement de critiques, si en particulier dans le domaine de l'évolution. Donc on voulait vraiment augmenter, outiller les professeurs du secondaire pour présenter l'évolution, la biologie évolutive.
Et à quel moment donc vous décidez de vous lancer dans ce projet ? Il y a un déclencheur ?
Oui, alors le déclencheur, c'est qu'il y avait le plus grand congrès d'évolution mondiale qui a eu lieu à Montpellier en 2018. Et une partie des finances de ce congrès, une toute petite partie, était pour ce qu'on appelle les outreach, donc aller vers le public, grand public. Et dans ce domaine, on a fait des rencontres avec le public tout venant. Mais on s'est dit que pour toucher les enfants, rien de mieux que d'abord s'adresser à leurs enseignants, qui sont ceux avec qui ils interagissent chaque jour. Et de cela, avec un petit peu de... quelques moyens donnés par l'organisation de ce congrès, on a pu initier cette formation.
Et si je peux, pardon, ajouter, il y avait aussi un terreau très favorable dans l'environnement montpelliérain, puisque on est quand même dans une situation où il y a une grosse communauté qui travaille en biologie évolutive, en recherche. On est aussi dans des circonstances où on est... un travail qui a été engagé avec nos collègues du secondaire et avec les IPR depuis déjà 2006. Et donc, il y a une liaison lycée-université où on a déjà travaillé sur des projets communs, pas d'une aussi grande ampleur. Et en 2009, lors de l'année Darwin, les chercheurs et les enseignants du secondaire se sont déjà rencontrés pour mettre en place un certain nombre d'actions et de formations. Donc, on part pas de rien, mais là, on est vraiment sur un projet de grande ampleur cette fois-ci.
Alors juste avant qu'on enchaîne sur le manuel, vous avez évoqué tous les deux plusieurs fois la biologie évolutive. En deux mots, vous pouvez nous dire ce que c'est que la biologie évolutive ?
Alors en deux mots, pour essayer d'être bref, on peut dire que la biologie évolutive, elle consiste à comprendre la biodiversité du vivant et les mécanismes qui façonnent cette diversité et donc qui permettent de l'expliquer, d'expliquer son évolution et son maintien.
C'est ça, c'est de voir, d'essayer de comprendre, de montrer... que au cours du temps, eh bien, les caractères des organismes, les fréquences des caractères vont changer et mener potentiellement à des adaptations à des changements du milieu, par exemple.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58.
On passe maintenant à notre séquence reportage. Et Aline, tu nous emmènes au CIRAD, c'est bien ça ?
Oui, Lucie, en route pour le laboratoire de botanique et modélisation de l'architecture des plantes et des végétations, où Nick Rowe, avec son projet GrowBot, étudie les propriétés des plantes grimpantes qui peuvent inspirer de nouveaux robots.
Bonjour, je suis Nick Rowe, je suis directeur de recherche CNRS. Et je suis le responsable scientifique pour ce plateau technique. Voilà, on fait la recherche sur la biomécanique et l'anatomie.
Et donc là, on est sur le site du CIRAD, au laboratoire AMAP. Vous pouvez m'expliquer un peu ce que c'est que ce laboratoire ?
Oui, en fait, dans ce laboratoire, on travaille sur la propriété biomécanique des plantes, surtout dans les forêts tropicales, en Amérique du Sud, en Afrique de l'Ouest et en Asie du Sud-Est. Et on fait beaucoup d'observations sur le terrain. Mais ici, on fait des mesures mécaniques sur les plantes, sur les tiges, les feuilles, les pétioles, les racines, Après, on a les mesures mécaniques. On fait des analyses anatomiques.
Donc, ça s'appelle le plateau d'histologie et de biomécanique, c'est ça?
Oui, c'est ça, exactement. Oui. Dans cette partie de la pièce, on fait les mesures mécaniques. Dans cette partie de la pièce, on a beaucoup de types de microscopes, les loupes binoculaires, une nouvelle génération de microscopes digitales, où on a une très bonne profondeur de champ. On fait des observations sur les préparations. Donc ici, le but, c'est de faire des observations, des mesures mécaniques, et puis préparer des matériaux au niveau anatomique. Notre spécialité, c'est les plantes grimpantes, les lianes. Les plantes grimpantes sont très, très particulières, très, très différentes des arbres, parce qu'au début, ils sont rigides quand ils veulent trouver un support. La clématite, le chèvrefeuille, au début, ils cherchent les supports. Après, ils s'attachent, ils deviennent très, très flexibles. Et ils ne cassent pas. Et cette transition entre les matériaux naturels qui sont d'abord très rigides et puis ils se développent en flexibilité qui est résistant à la fracture, à la rupture, ça c'est très intéressant pour les approches biomimétiques.
Donc vous inspirez des capacités des plantes grimpantes pour pouvoir concevoir des robots comme ça, c'est passionnant.
Exactement.
Vous travaillez avec des roboticiens du coup?
Oui, les roboticiens en Italie, dans un institut qui s'appelle IIT, avec Barbara Mazzoli qui est la chef du projet.
C'est très transdisciplinaire finalement, exactement. De la botanique à la robotique.
Exactement. On a des autres appareils ici. Ici c'est un pendule mouton et en fait... Avec cet appareil-là, on peut calculer la force nécessaire pour casser quelque chose.
Ah, et ce n'est pas ce qu'on regardait déjà sur celui de tout à l'heure.
Ici, c'est un appareil qui fait les mesures en choc. On a un impact, on a le matos là, qui est dans une position élevée, et on peut déclencher la machine.
C'est une branche que vous mettez en dessous?
On peut mettre une branche, une petite tige, un morceau de bois, et on dégage la machine ici. Le matos descend.
Oui, donc là, on a le marteau qui descend et qui vient taper sur l'échantillon.
Il casse l'échantillon. Et la machine mesure le point après l'impact, il mesure la distance et avec cette distance, il peut mesurer la force qui était nécessaire pour casser l'échantillon. Et ça, c'est très intéressant pour voir comment les plantes sont résistantes au choc. Les plantes grimpantes sont très résistantes au choc. Et quelque chose de très intéressant pour nous, c'est de voir quelle est l'organisation de tissus dans les anciennes tiges de lianes qui sont très flexibles et résistantes au choc, et voir comment l'organisation de tissus peut optimiser la résilience et la résistance aux fractures. Ça, c'est très intéressant pour les nouvelles technologies, pour les nouveaux types de tuyaux, les nouveaux types de câbles qui ne vont pas casser après un accident, après une explosion, après un impact.
Vous pouvez vous inspirer du coup de ça pour tout ce qui va être création de nouveaux matériaux.
Oui, les nouveaux matériaux qui ne vont pas casser, qui vont toujours fonctionner un petit peu, même après un grand événement destructif. Et ça, c'est très intéressant pour les nouvelles technologies, pour les avions, pour les voitures, etc., etc. Dans la nature, les plantes grimpantes sont très bien, sont très efficaces pour survivre les chutes des arbres. On dit les chablis en français. Et c'est ça qui nous intéresse beaucoup. C'est le survie des chocs qui sont très, très forts.
On s'inspire des plantes pour tout ce qui va être technologique.
Exactement, exactement.
Je vous emmène à l'Institut botanique, situé tout au fond du Jardin des Plantes. Là-bas, j'ai rendez-vous avec Audrey Théron, qui est chargée des collections à l'UM. Je parcours avec elle les très longs couloirs de ce bâtiment auquel l'aspect un peu vieillissant confère une ambiance toujours très particulière. Audrey s'arrête, ouvre une porte sur ce qui semble être une ancienne salle de cours, et là, dans la pénombre, se dessine, dressée sur une vieille paillasse, une lionne grandeur nature.
« je m'appelle Audrey Théran et je suis chargée de collection muséale à l'Université de Montpellier.
Et donc aujourd'hui, tu nous fais découvrir la collection de zoologie, c'est bien ça ?
C'est ça, alors une collection de zoologie qui est dispersée dans plusieurs réserves. Donc là, on est plutôt dans les réserves qui sont consacrées aux mammifères. C'est une petite collection de 300 spécimens qui est dans deux pièces.
Et donc en rentrant dans cette première pièce, la première chose que l'on voit, c'est une lionne.
C'est une lionne qui a une petite histoire en plus assez marrante parce que en fait, la plupart des animaux que l'on possède, on ne connaît pas forcément leur histoire. On a des traces dans les catalogues avec une ligne le jour de l'achat ou de la donation. Mais celle-ci, en fait, on a pu un peu retracer son histoire parce qu'elle a été donnée par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris au 19e siècle et on sait qu'elle vient d'Alger. Et certainement, elle aurait été rapatriée lorsqu'il y a eu la chute du Grand Dais d'Alger au milieu du 19e siècle. Et donc, les Français avaient récupéré la ménagerie du Grand Dais et l'avaient rapatriée à Paris. Et de Paris, en fait, lorsqu'elle est décédée, on a récupéré en fait l'animal naturalisé. Alors, empaillé et naturalisé, c'est la même chose, sauf qu'aujourd'hui, on a tendance à dire naturalisé, empaillé parce que tout simplement, il y avait de la paille au 19e siècle qu'on mettait à l'intérieur, en fait, un petit peu tout ce qu'on trouvait. Hein. D'ailleurs, il peut y avoir du tissu, de la mousse. Mais aujourd'hui, on dit naturalisé parce qu'on utilise des mousses spécialisées qui reproduisent la forme du corps et qui sont mieux pour la conservation, puisqu'en fait, la paille, ça amène quand même des petits insectes qui peuvent aussi grignoter la peau.
Donc, ce spécimen-là date du 19e siècle.
La plupart des collections de l'université datent du 19e siècle, hein, puisque l'université, la faculté de sciences a été créée en 1808.
Il y a une autre pièce. Et donc là, avant même d'avoir passé la porte, on voit un guépard en train d'attaquer un petit zèbre. C'est étonnant comme mise en scène. Donc.
Oui, alors la taxidermie, il y a toute une évolution dans la représentation des animaux. Donc en fait, en général, ça permet aussi de dater parce qu'il y avait des représentations très agressives à une période qu'on ne fait plus quasiment aujourd'hui. Là, c'est un spécimen, enfin deux spécimens qui ont été mis en scène comme ça par le taxidermiste du zoo. On a une convention avec le zoo pour parfois récupérer des peaux ou des os qui sont d'ailleurs utilisés en général par l'ISEM, l'Institut des sciences de l'évolution.
Alors autour de nous, on voit beaucoup de cornes, de bois. On voit même une vraie tête de girafe qu'on voit.
Oui, c'est ce qu'on appelle des trophées. Donc ce sont uniquement les cornes ou le frontal du crâne avec les cornes. Ça dépend, il peut y avoir les deux. Il peut y avoir parfois la tête en entier naturalisée. Donc là, on a la tête de la girafe. Bon, alors il faut savoir que nous aussi, on avait un taxidermiste à l'université avant 2008, puisqu'il est parti à la retraite. Et donc je crois que c'est lui qui avait beaucoup travaillé sur ce spécimen-là. Et donc on a le squelette qui correspond à cette girafe. Le squelette est toujours dans les salles de TP et à part.
Il n'y a plus d'os, non ?
Non, il n'y a plus d'os. En fait, dans aucun des spécimens qu'il y a ici, les os sont retirés et sont utilisés pour... en fait, on pouvait utiliser tout sur un spécimen. Donc, on montait les os sur un socle à part et puis après, on montait la peau à côté. Ça permettait aussi de comprendre l'intérieur de l'animal. Ce sont des fils de fer aussi qui maintiennent.
Qui c'est, lui ? C'est une sorte de kangourou ?
Voilà. Wallaby. Et là, il y a écrit figuré en gros sur son socle. Donc, a priori, ce serait un animal qui a permis les figurés de décrire une espèce.
Donc, on a des antilopes, des bouquetins. Au-dessus, donc, on a un sanglier. On a, c'est un fourmilier, un tamanoir.
Voilà. Il est pas mal sorti en exposition et c'est un beau spécimen.
Là, on a un gros animal, donc c'est aussi un capridé. Là-haut, il y en a. Alors, j'ai du mal à dire que c'est beau, mais en tout cas, c'est très impressionnant.
Les amis, c'est vrai, sur des étagères, donc c'est vrai qu'ils dominent là-haut et donc on a l'impression qu'ils vont nous sauter dessus aussi. Et il y a un gros lémurien aussi qui est accroché à sa branche. Il faut savoir qu'au 19e siècle, donc, on ne rapportait que les peaux. Les peaux et les os séparés pour pouvoir les conserver sur la durée. Des voyages qui pouvaient durer plusieurs années en bateau. Hein.
Et en face de nous, c'est un petit dromadaire noir ?
Non, c'est un petit lama. C'est une vigogne. Alors, il y en a aux zoos, des vivants.
C'est plus sympa quand même. Le castor, il a l'air énorme au-dessus énorme, aussi.
Voilà. C'est un ragondin, non ? Le castor, il est... Alors, le castor est dans le frigo parce qu'en en fait, il était en exposition au musée Fabre pour l'exposition Pharmacopée. Et en fait, quand on fait revenir des pièces d'un musée, d'une exposition ou qui se sont baladées en dehors de nos réserves, on les congèle, on les surgèle même. Ils passent à... là, ils sont à moins 50 à peu près pour éviter toute infestation dans les collections. Parce qu'une infestation... c'est le drame et ça peut vite manger tous les peaux et tous les poils. Donc voilà, et la surgélation permet, la surgélation à environ une semaine de nos spécimens permet d'éviter ces problèmes-là.
Alors là, on a un loup.
C'est un loup gris. Le loup était à la place de la lionne. Donc c'est vrai que quand on rentre, on voit la lionne en face de soi qui est face à la fenêtre. Donc c'est assez impressionnant. Et avant de récupérer la lionne, c'était le loup. Et une fois, on avait fait intervenir, je pense, pour des problèmes d'électricité, des techniciens. Et en fait, j'avais ouvert. Je me dis, c'est là-bas. Il rentre et je les vois repartir en criant, un loup. Il est vraiment en train de sortir en courant. Mais il est mort.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.